Ésaïe, chapitre 40. Il faut savoir que Ésaïe, c'est quand même un prophète très très cité dans le Nouveau Testament. Il est cité 66 fois dans le Nouveau Testament, depuis les Évangiles jusqu'à l'Apocalypse. Et il n'y a que les psaumes qui sont plus cités de l'Ancien Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à partir du chapitre 40, on passe dans un autre type de prophétie, à tel point que certains théologiens disent que ce n'est pas Ésaïe qui a écrit à partir du chapitre 40, mais un de ses disciples, ou que ça a été écrit beaucoup d'années plus tard et ajouté à Ésaïe pour donner du poids à ces textes, ce qui est un peu étrange dans la mesure où ces textes sont très très beaux et que l'on cache l'identité, qu'on cacherait l'identité de l'auteur n'a pas tellement de sens. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question pourquoi il y a ces différences entre la première partie du livre et la deuxième partie. Et en comprenant les différences, ça va nous aider à rentrer dans cette deuxième partie. Je pense qu'il y a au moins quatre raisons qui expliquent pourquoi cette deuxième partie est très différente de la première partie. Le premier, c'est que à ce moment-là, Ésaïe n'est plus un personnage public. Donc, vous vous rappelez dans la première partie, pour ceux qui étaient là, à un certain moment, Jérusalem était menacée par les Assyriens, le roi fait appel à Ésaïe, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'était un personnage public, on va dire conseiller du roi, prophète du roi. Et maintenant, dans cette deuxième partie, il est évident que, d'après les calculs des théologiens, on ne parle plus de cette invasion, c'est plus tard. Ça fait peut-être 40 ans qu'il prophétise depuis la mort du roi Ozias, hein, donc, dont on parle dans Ésaïe 6. Et il avait certainement à ce moment-là plus de 70 ans quand il a écrit la deuxième partie d'Ésaïe. Donc on n'est plus dans la configuration Ésaïe, personnage public, peut être Ésaïe, prophète, pas privé, mais qui prophétisait pour le peuple, mais qui n'avait pas ce rôle public. Deuxième raison, on en a parlé la semaine dernière, le pauvre Ézéchias, hein, qui était un très bon roi en fait, pas parfait mais un très bon roi, a eu le malheur, même si peut-être il ne savait pas, que son fils Manassé était pratiquement le pire des rois de Juda. Vraiment, il a rétabli l'idolâtrie. On a vu la semaine dernière qu'il a mis même des idoles dans le temple même, dans le lieu saint de l'Éternel. Et il a certainement persécuté tous ceux qui voulaient rester fidèles à l'Éternel. Et il y a une tradition, mais ce n'est pas dans la Bible, mais une tradition qui a quand même, qui a traversé les siècles, donc qui est peut-être vrai, que Ésaïe est mort, martyr, sous la règne de Manassé. Et la tradition dit même que Manassé l'a scié en deux. Et si c'est le cas, on a un petit rappel de cela dans Hébreux chapitre 11, où on parle de certains qui étaient persécutés et sciés. Donc certains pensent que c'est Ésaïe. Mais ce n'est pas dans la parole, mais je dis c'est la tradition. Et donc, il n'avait plus ce rôle de personnage public, non seulement à cause de son âge, mais à cause du roi Manassé qui a régné pendant de longues années en tant que très mauvais roi. La troisième raison, c'est que, on le constate à un certain moment donc, dans ses prophéties, que Ésaïe, lui, même si Jérusalem venait d'être délivré des Assyriens, lui, il voit déjà la prochaine menace. Ce n'est plus la Syrie, c'est Babylone. Et on a vu une allusion à ça au chapitre 39, qu'on a lu la dernière fois, quand, avant que Babylone ne soit une grande puissance, Le roi de Babylone avait envoyé des messagers pour féliciter Ézéchias qui était guéri d'une maladie en demandant un petit peu d'être allié. Ézéchias leur a montré tous ses trésors, qui n'étaient pas vraiment très sages, toutes ses armes, toute sa force militaire. Et Ésaïe avait compris que l'Assyrie aller vers son déclin malgré tout et que le prochain empire arrivait. Donc on parle beaucoup plus de Babylone dans cette deuxième partie. Donc en fait, quatrième raison, mais qui résulte de tout cela, c'est que Ésaïe maintenant a un nouveau rôle. Ce n'est pas le rôle public, mais le rôle de consolateur d'Israël. Pour apporter vraiment une consolation spirituelle à son peuple. Et c'est pour cela que les premiers mots du chapitre 40, c'est consoler, consoler mon peuple, dit votre Dieu. Voilà, cela en introduction. Alors, ce chapitre, on peut le diviser en deux. D'abord, comme une symphonie, comme un opéra, il y a les 11 premiers versets que l'on peut appeler l'ouverture. Parce qu'il va décliner très rapidement beaucoup de thèmes sur lesquels il va revenir. Donc, c'est pour cela que certains ont utilisé cette métaphore musicale pour dire que c'est comme l'ouverture. Et on va regarder assez rapidement les quelques thèmes qui sont mentionnés dans ces versets. Et on va pas tellement les développer parce qu'on va revenir à tous ces thèmes au fur et à mesure que l'on passe dans les chapitres suivants. Mais d'abord donc, je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien étroite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme le verra. Pardon, la verra, c'est la gloire. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, proclame un message. J'ai répondu, mais que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui. Et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Fin de l'ouverture. Voilà. Donc, on va passer en revue les différents thèmes qu'il annonce dans cette partie, sachant que Ésaïe va revenir et développer tous ces différents thèmes au cours des 26 chapitres suivants. D'abord, le réconfort. Verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. En fait, on ne sait pas qui doit le faire. Il dit donc tout simplement consoler. Qui doit apporter cette consolation? Ce n'est que dans le verset 6. Qu'il y a une voix qui dit, proclame ce message. Et j'ai répondu, a dit Ésaïe, que dois-je proclamer? C'est un petit peu comme dans Ésaïe 6, où il y a en quelque sorte la vocation donc d'Ésaïe, la vocation qui fait que il dit, mais est-ce que je peux parler? J'ai quelqu'un qui a les lèvres impures, et puis Dieu prend un charbon ardent sur l'autel pour toucher ses lèvres et pour dire maintenant les lèvres sont pures, vous pouvez parler. Et donc il est envoyé pour proclamer. Et cette fois-ci, de nouveau, on proclame que dois-je proclamer? Donc Ésaïe se porte volontaire et il va parler. Donc voilà, c'est ce réconfort que Ésaïe doit apporter. Quel est ce réconfort principal? Verset 2. Créez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée. Donc c'est le pardon des péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement la délivrance du pouvoir assyrien ou babylonien. Son péché est pardonné. Et donc, on ne sait pas comment. Si vous restez avec moi, on arrivera au chapitre 53, un petit peu plus tard, où on va expliquer ça en long et en large. Mais voilà, il annonce déjà que nos péchés seront pardonnés. Troisième chose, il parle du chemin de l'Éternel. Donc, ce chemin, dans la prophétie, on voit toujours des choses, très souvent en tout cas, à double niveau. Une première façon de comprendre ce chemin, dont il parle à partir du verset 3, prépare le chemin du Seigneur, les vallées comblées, les montagnes abaissées. C'est un peu comme lorsqu'on prend le TGV, à un certain moment, on passe à travers les montagnes, et après, on fait un remblai pour passer une vallée. Bon, c'est pour préparer un chemin facile. Pour quelle raison? Bon, les premiers auditeurs ont peut-être compris, à un certain moment, c'est pour sortir de Babylone. C'était pour revenir de l'exil. Ils vont être, comme on a dit toujours là, libérés et délivrés de l'exil. Mais, ces paroles sont citées, et le Seigneur conduit toujours les choses, parce qu'on parle de Jean-Baptiste, sont citées dans Luc 3. Donc, Jean-Baptiste, qui vient préparer le chemin de Jésus, et qu'est-ce qu'on fait? On cite justement ces mêmes versets dans leur totalité, Luc 3, 4. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. Donc, le deuxième sens, évidemment, de ce chemin rendu possible, c'est le chemin qui mène à Dieu par Jésus. Donc, c'est les préparations de la venue de Jésus et notre possibilité de voir le salut, de voir la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, d'après ce que l'on vient de dire, on comprend que cette gloire n'est pas seulement pour le peuple hébreu, mais que c'est surtout pour nous, chrétiens, qui ont vu la gloire de Dieu, je cite 2 Corinthiens, sur la face de Christ. Donc, on voit la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans le monde par la venue de Jésus. Et cette parole est sûre, encore un thème qui est mentionné. Parce que il dit, voilà, nous sommes comme l'herbe des champs, la fleur des champs, hein, donc ça paraît un moment. Pense à Ronsard, il faut cueillir la rose aujourd'hui, hein, parce que sinon, elle serait fanée après. Donc, notre grande poésie française. Mais la beauté disparaît, mais qu'est-ce qui reste? Verset 8, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est ça qui reste. Dieu a parlé, il a mis dans la bouche des prophètes, il a mis dans la bouche de son fils, et après, ça a été écrit pour venir jusqu'à nous. Donc, la parole de Dieu reste éternellement. Et cette partie, que je viens de lire, hein, les versets 6 à 8, cette partie de ce premier chapitre d'Ésaïe est citée, encore une fois, dans le Nouveau Testament, cette fois par Pierre, au chapitre 1 de sa première lettre. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 23. Je commence à 23 parce que ça montre bien que ces versets s'appliquent à nous aussi, parce qu'ils parlent de la nouvelle naissance en Christ. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, car toute créature est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Donc, c'est la deuxième fois qu'il y a une longue citation de cette ouverture dans le Nouveau Testament. Et on peut tirer la conclusion, comme toujours dans la prophétie, qu'il peut y avoir des horizons différents, un horizon immédiat, où on peut dire que ça s'appliquait à une situation historique du peuple d'Israël, mais surtout, ça s'applique à nous, chrétiens, au moment de la Nouvelle Alliance. Thème suivant, Sion, la ville de Dieu qui va crier la bonne nouvelle, qui va dire « Voici votre Dieu !» Et là, jusqu'à l'Apocalypse, où c'est la Nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, qui sera l'habitation de Dieu et notre habitation, cette notion de que Sion, c'est plus que simplement une ville, c'est plus que la capitale du pays, c'est aussi Sion qui va annoncer la bonne nouvelle. Donc, dans un sens, Jérusalem, la ville, continue d'exister, mais le peuple de Dieu, c'est nous, on continue à annoncer et dire « Voici votre Dieu ». Et le dernier thème, c'est la souveraineté de Dieu et sa tendresse. Parce qu'au verset 10 et 11, on voit d'une part que Dieu, c'est Dieu qui décide. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Son bras lui assure la souveraineté. Mais en même temps, pareil, un berger, il s'occuperait de son troupeau, il prend des agneaux dans ses bras, il portera contre sa poitrine. Donc Dieu est grand, immense, ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce chapitre, mais il a un cœur tendre pour s'occuper de chaque agneau, de chaque brebis. Voilà. Tous ces thèmes-là, Ésaïe va revenir à différents moments sur ces thèmes dans les chapitres suivants. Mais il commence, en fait, avec le thème de sa souveraineté et de sa grandeur. Et ça, c'est à partir du chapitre 40, verset 12. Alors, je vais lire de 12 jusqu'à, enfin, dans un premier temps, jusqu'au verset 26. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Les nations sont parées à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés, leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qui soufflent sur eux. Ils se dessèchent alors, le tourbillon les emporte comme un brin de paille. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande ce saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela ?» C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Ils appellent tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, ses forces si puissantes que pas un seul ne manque. Je n'ai pas compté le nombre de questions dans ce texte, mais il y a une quantité de questions. Parce que finalement, parfois quand on fait une affirmation, bon, ok, on affirme cela, mais une question qui est posée nous oblige à réfléchir et dit, bah oui. Il dit, à la fin du verset 21, « N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre, on peut dire, là, au moment de la création ?» Parfois, avec vous, à différents moments, je me souviens, lors d'un baptême, je pense une fois, j'ai montré combien d'années de lumière il faudrait pour aller aux plus proches galaxies. Et il y a des milliards de galaxies, et Dieu a créé cela à partir de rien. Cet été, pour une de nos filles, j'ai monté un meuble Ikea, et j'étais tout fier, mais enfin, tout le matériel était là, hein, donc je n'avais qu'à suivre ce qui était marqué sur le papier. Mais Dieu a non seulement, il n'avait pas d'instruction, mais il n'y avait rien avec lequel il pouvait faire l'univers. Donc il a réfléchi à ça, il a créé. Et il dit même qu'il connaît le nom de toutes ces étoiles. Et quand on dit aujourd'hui qu'il y a des milliards, pas d'étoiles, mais des galaxies, chacun avec des milliards d'étoiles, bon, on n'arrive pas à suivre. Et Dieu connaît le nom de chacun. Et même si ce n'est pas dit dans ce texte, en même temps, il voit chaque moineau qui est vendu, il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit donc l'intelligence de Dieu, qui a fait tout cela, et il a mesuré les océans dans le creux de sa main, hein, donc bon, c'est pas littéral, mais pour nous, un océan, c'est extraordinaire. Et j'ai lu plus d'une fois que l'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans, encore aujourd'hui. Mais cette intelligence qui a fait qu'il a pu créer un univers. Il nous demande donc, levez les yeux, laissez les regarder. Qui a créé cela? Ça tombe sous le sens qu'il y a un créateur quelque part. Et dans le livre, le premier chapitre des Romains, Paul dit, mais le problème c'est que tout le monde sait qu'il doit y avoir un créateur, mais on refoule cette idée, on ne veut pas y penser. Je pense que des fois, ça vaut le temps, ça vaut le coup de s'arrêter et de penser à tout ça. fait le sujet de notre culte du soir, ce soir. Son intelligence. Il est donc digne de notre adoration. Mais pour montrer à quel point nous ne sommes pas capables de le faire, il dit, mais pour alimenter, bon, là il parle avec le langage de l'Ancien Testament, pour alimenter les sacrifices, donc qui étaient brûlés, et il faudrait abattre toute la forêt du Liban pour pouvoir le faire. Et tous les animaux du monde ne suffiraient pas. Donc, alors, quand même, il appelle notre adoration. Il est donc incomparable. Et c'est pour cela qu'il ironise. On veut créer un dieu, ok, bah, on va demander à un artisan qui fait une statue, il va le faire en or, il va faire des chaînettes en argent, et puis pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour ça, bon, on va chercher un bois solide qui ne pourrisse pas, et on va solliciter les services d'un artisan habile pour fabriquer la sculpture, mais en plus, une sculpture qui ne vacille pas, donc je cite le sommeur, c'est un peu ridicule, hein. Donc, on va adorer quelque chose, mais d'abord, il faut être sûr que ça ne vacille pas sur son socle. Si ça vacille pas, bon, on va l'adorer. Mais c'est tellement ridicule. Et c'est dans ce sens-là que ça vaut la peine de bien penser à notre vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie qui est courte? Et est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on a comme idole? Parce qu'on a notre santé... l'argent, la gloire, se faire un nom, ne penser qu'à moi, être tranquille, bon, c'est autant d'idoles, hein, donc. Mais toutes ces idoles vacillent. Donc, la conclusion, et Dieu veut d'abord qu'on comprenne qu'il est beaucoup plus grand que tout ce qui est humain. De verset 15, les nations qui sont tellement fières, qui construisent des palais, des hymnes nationaux, qui ont toutes leurs traditions et tout, c'est comme une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Et c'est comme la poussière sur une balance. Et je pense que j'ai déjà dit, mais chaque fois, qui heureusement n'est pas trop souvent, je vais dans un supermarché, s'il faut peser les fruits et légumes, je n'ai jamais vu quelqu'un qui enlève d'abord la poussière en disant que je ne veux pas payer la poussière non plus. Et pourtant, les nations sont comme la poussière sur une balance. Donc, peu de valeur. Le verset 17, toutes les nations sont presque comme le néant et le vide devant moi. Versets 21 à 24. L'Éternel siège au-dessus de la terre et ses habitants sont comme des sauterelles. Ce n'est pas grand-chose. Tout cela, il dit, il ne dit pas en quelque sorte pour dire, vous, être humain, vous ne valez rien, parce que ce serait en contradiction avec tout le reste de la Bible. Mais il dit pour qu'on sache que lui est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut penser. Et il faut reconnaître sa grandeur. Il ne faut pas, en quelque sorte, être engourdi dans notre pensée. On se lève le matin, mettre au boulot dodo, comme on disait, sans réfléchir. Dieu est grand. Et il faut y penser continuellement. Un langage vigoureux pour nous le rappeler. Mais ce n'est pas tout. Et ensuite, on peut lire les versets 27 à 31. Parce que c'est la bonne conclusion de ce chapitre avant qu'Ésaïe n'aille plus loin. Donc là, il s'adresse... Il dit à Jacob, à Israël, bon, ce sont des synonymes pour dire son peuple, c'est le peuple juif. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu Israël? ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable, mais il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Je vois quelqu'un qui a des problèmes de genoux. On va arriver à ça. Quand on voit la grandeur de Dieu dans ce chapitre, on peut tirer deux conclusions. La première conclusion est fausse. Ce serait, Dieu est tellement grand qu'il ne s'intéresse pas à moi. Ou la deuxième conclusion, Dieu n'est pas trop grand pour s'intéresser à nous. Au contraire, puisqu'il est tellement grand, il peut tout savoir. Et quand on pense par exemple à ce psaume 139, il dit que Dieu sait quand on marche, quand on se couche. Avant que la parole n'ait pas encore sur ma langue, tu la connais entièrement. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Il dit, mais où est-ce que je pourrais aller loin de ton esprit? Si je monte au ciel, tu es là, au séjour des morts, tu es là, je vais à l'extrémité de la mer, tu es là, au moins les ténèbres me couvrent, non, la nuit devient lumière autour de moi. Donc, Dieu est tellement grand, même s'il connaît le nombre des milliards de galaxies, il sait aussi les paroles que l'on va prononcer avant qu'on les prononce. Donc il connaît nos pensées même. Et là encore, il y a deux façons de dire. Soit c'est effarant, ça fait peur. On ne peut pas cacher devant Dieu aucune pensée, aucune parole, rien de ce qu'on fait, même quand on est tout seul, et que personne ne regarde, Dieu le sait. C'est à la fois, ça pourrait inspirer une très grande crainte. Ou on dit, puisque Dieu est là, il connaît toute ma situation, toutes mes difficultés, tous les collègues difficiles. Par exemple, il connaît tout cela. Et il va m'aider, il va me protéger, je peux lui faire confiance. Et c'est ça le sens de ces versets. C'est forcément, on est dans la métaphore. Si on se met devant ce texte pour dire, Seigneur, je veux pouvoir courir sans m'épuiser, même si j'ai passé quelques décennies sur la terre, ce ne serait pas la bonne conclusion. Mais il n'y a pas que la fatigue physique. Il y a aussi la fatigue morale et spirituelle. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, il y a notre fragilité, il y a le désespoir, le burn-out, l'état dépressif, que le Seigneur connaît. Et à qui on peut s'adresser pour demander qu'il nous aide. Tant que nous sommes dans ce monde, on ne va pas échapper à ces difficultés, la Bible ne les cache pas, mais la solution d'abord, c'est de ne pas se regarder à soi-même, mais de penser à nouveau à la grandeur de Dieu et tout ce qu'il prépare pour nous. Bon, il va nous dire dans les chapitres suivants tout ce qu'il prépare pour nous, mais déjà je pense que c'est bon de se dire, prenons le temps, parce que le Seigneur nous y invite, de dire, n'avez-vous jamais réfléchi? C'est à nous d'y penser, de prendre le temps d'y penser. c'est une des raisons pour lesquelles on le fait collectivement au niveau d'un culte. Hein. On entend des choses, on chante des chants, on a des moments de prière, mais on peut le faire tout seul aussi. De prendre le temps de s'arrêter. Le thème de notre culte ce soir, psaume 46. Hein. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous aider vraiment à regarder vers toi. Nous sommes tellement parfois nombrilistes, on regarde à nous-mêmes, à nos problèmes, à notre contexte, à notre situation, alors que tu nous invites à réfléchir et savoir que tu es tellement grand que notre droit ne passe pas inaperçu devant toi. Notre situation n'échappe pas à l'Éternel. Seigneur, que nous puissions réfléchir à ça, pourquoi pas jour et nuit, pour que cette pensée pénètre profondément en nous, que nous puissions vivre vraiment notre vie devant toi et à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.